À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question du pape Pie XII, comme je vous en ai parlé l'an dernier d'ailleurs, mais je ne reviendrai pas exactement sur les mêmes questions. Il est mort en 1958, et je tiens à répéter, comme je l'ai fait l'an dernier quelques autres fois avant, depuis plus de trois ans, que Pie XII est un grand sauveur des Juifs durant la guerre mondiale. À l'encontre de tout ce qu'on a pu dire contre lui, à la suite d'une pièce de théâtre intitulée Le Vicaire, pièce allemande, où on se plaisait de façon très fausse à l'accuser, ça fait boule de neige, comme souvent, les faussetés font boule de neige, et les vérités, on les tait. Eh bien, ici, à Radio Ville-Marie, on ne taira pas les vérités au sujet de Pie XII. Et aujourd'hui, il sera question en même temps de celle qu'on pourra appeler dans 48 heures Sainte Edith Stein, carmélite d'origine juive, mais juive, quoi. Je vous ai déjà fait une émission sur Edith Stein. Je ne vous raconterai pas à nouveau sa vie, mais nous allons aborder tout le problème de la valeur de la vie. Et je voudrais faire une parenthèse avant de commencer, en vous lisant un extrait du journal La Presse paru hier, sous la plume de Lisiane Gagnon, que je connais bien, et je tiens à lui rendre hommage en lisant cela. Elle est revenue de vacances. Elle a considéré quelles sont les nouvelles qu'elle a pu suivre un peu grâce à l'Internet, là où elle était. Et elle dit à un moment donné dans son texte intitulé « La marche des événements », l'événement le plus bouleversant durant son absence. Pauline Julien, évidemment. Et elle ajoute, elle qui nous a tant émus pendant si longtemps, inoubliable tigresse à la crinière rousse, mince silhouette, tout en passion et en tension, et cette voix qui vous remuait jusqu'au fond de l'âme. Oui, elle nous aura émus jusqu'à la fin, et au-delà de la fin. Mais il y a une chose qui me dérange dans l'avalanche de témoignages, c'est l'éloge du suicide, le fait qu'aux yeux de nombre de gens, Pauline Julien se soit grandie parce qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours. Je reconnais volontiers le droit de tout être humain, dit-elle, de choisir l'heure de sa mort, mais y a-t-il là de quoi crier à l'héroïsme? Bon, elle est incroyante, elle peut se permettre de dire ça. Mais elle ajoute des choses magnifiques que nous, catholiques, pouvons endosser, et nous pouvons la remercier d'avoir dit les paroles qui suivent. Les mots qui reviennent dans tous ces témoignages, c'est ceux de dignité et de courage. On les entendait dans une église catholique, l'église Saint-Pierre-Claver, souvenez-vous. Ah tiens, dit Lisiane Gagnon, ah tiens, tiens. Et alors, faudrait-il en déduire que les grands malades alités dans les hôpitaux manquent de courage et de dignité, eux qui trouvent encore des raisons de vivre? Et les vieux qui acceptent de mener une vie diminuée par quelque handicap ou quelque maladie de l'esprit, devraient-ils se mettre à culpabiliser? Et Lisiane Gagnon termine en disant, « Je trouve cet éloge du suicide assez troublant. Et pour tout dire, j'y perçois une certaine érosion des valeurs. Je ne parle pas de religion ici, je n'en pratique aucune. Mais tout de même, la vie n'est-elle pas une valeur en soi? Faut-il, pour être aimé ou pour que sa vie ait un sens, être nécessairement beau, adulé et en santé? » Je ne pouvais passer outre à un texte aussi courageux, un son de cloche qu'on n'a pas entendu au moment de cette catastrophe qui a terminé la vie de Pauline Julien, que j'aimais beaucoup, et qui était la nièce de sœur Gabrielle Julien, qui a été longtemps missionnaire en Afrique, sœur blanche d'Afrique, au Burkina Faso, qu'elle aimait beaucoup, c'était son deuxième pays. Elle termine ses jours à Québec, cette religieuse admirable, avec laquelle je suis devenu une grande amie. J'allais la visiter souvent chez les sœurs grises avec mes petits-enfants. C'était une grande fête que d'aller la voir. Eh bien, revenons au pape Pie XII. qui est né en 1876 et mort en 1958. Il est né le 2 mars 1876. Il est né d'une famille romaine et c'était la première fois depuis 2 siècles, je crois au moins, qu'un Romain était élu pape. Et depuis 2 générations, sa famille servait la papauté. Son grand-père, Marc-Antonio, était l'un des fondateurs de l'Osservatore Romano. Ça peut être intéressant pour les gens qui sont abonnés à l'Osservatore Romano, ce journal du Vatican, et qui est publié en français aussi. Vous pouvez vous abonner. Son père, Filippo, était doyen des avocats du consistoire du Vatican. Il était marquis, d'ailleurs, de la cour du Vatican à l'époque où il y avait une cour. Ça a été supprimé avec le Concile Vatican II. Et Eugenio Pacelli fait ses études secondaires au lycée Visconti et comme séminariste, il suit les cours de l'université grégorienne des Jésuites et de l'Ateneo San Apollinare. À l'église San Apollinare, il y a un curé admirable, un saint, actuellement. Et pendant 1 an, il suit les cours de la Sapienza, université d'État. Finalement, il est ordonné prêtre le 2 avril 1899, à 23 ans, le jour de Pâques. Il entre dans la curie romaine dès 1901, 2 ans plus tard, donc à 25 ans. Pie X le charge en 1903, 2 ans plus tard, du dossier de l'Église de France. Il est très jeune, hein? Alors aux prises avec le ministère Comble, qui chasse les communautés de la France. Toutes les communautés. C'est terrible. Même les moines, les moniales. Et toujours sous Pie X, il collabore, Eugenio Pacelli, l'abbé Pacelli, avec le cardinal Gaspari, à la rédaction du Code de droit canon. C'est déjà un intellectuel et un homme remarquable que c'était Eugenio Pacelli. Le pape Benoît XV, à son tour, le nomme secrétaire de la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires. Et puis, à ce titre, le pape l'envoie, en 1917, auprès des empereurs d'Autriche et d'Allemagne pour chercher comment terminer rapidement la guerre de 1914-1918. Ensuite, il passe en Allemagne, comme nonce, comme ambassadeur du Vatican, si vous voulez, ambassadeur du pape, d'abord à Munich, puis à Berlin en 1920. Et il a, quoi, 44 ans, quelque chose comme ça. Il va y rester 12 ans, à Berlin. Le cardinal Pacelli négocie pendant cette longue ambassade, ou nonciature, si vous voulez, des concordats avec la Bavière et la Prusse. Puis le concordat avec la Prusse, ça va ouvrir une nouvelle ère entre l'Église catholique et cet État protestant. La Bavière, c'est catholique, la Prusse, c'est protestant, hein. Avec cet État protestant, l'État protestant le plus puissant de l'Europe continentale. Alors, c'est préparé donc par le nonce Pacelli. Le concordat est signé le 14 juin. Et Pacelli va être ensuite nommé secrétaire d'État le 7 février 1930. Puis le concordat avec l'Autriche de Dollfuss est finalement signé en 1933. Mais là, 1933, quelle réponse donner à la demande du régime nazi, qui est maintenant installé en Allemagne et qui est le gouvernement légal du pays? C'est un dilemme terrible. Et Franz von Papen, qui est le catholique et vice-chancelier de ce gouvernement nazi, sert d'intermédiaire. Les termes du concordat proposés sont nettement plus favorables à l'Église que ceux des textes soumis par les gouvernements précédents. C'est assez surprenant, hein? Mais, est-ce que les nazis ont une parole? Voilà l'affaire. Alors, le cardinal Pacelli voit dans ce concordat le seul moyen, fragile, c'est évident, de défendre les intérêts des catholiques allemands. Et c'est pas drôle que d'être un homme comme ça, un ambassadeur, qui doit faire des représentations, essayer de ménager un peu la chèvre et le chou, quoi. Il le faut, c'est une obligation. Car il en tient de la vie et des institutions et de la possibilité d'exercer sa religion pour des millions de gens. C'est pas facile. Et le pape Pie XI a expliqué dans sa fameuse encyclique Mit Brennen der Sorge, le 14 mars 1937, pourquoi il a accepté ce traité. Hein? C'est un texte qui a été rédigé en grande partie par Pie XII, qui s'appelait le Cardinal Pacelli à ce moment-là. Et la raison, bien, c'est que les évêques et les catholiques allemands le voulaient, ce concordat. Et beaucoup plus tard, en 1945, à la fin de la guerre, quand le Cardinal Pacelli est déjà pape depuis plusieurs années, devenu pape, il avoue qu'il n'a jamais eu aucune illusion. Et il rappelle qu'il a alors fait paraître dans l'Osservatore Romano, fondé par son grand-père, deux articles désavouant l'idéologie nazie. Des recherches récentes ont montré que le cardinal Pacelli a joué un rôle très important dans la rédaction de l'encyclique de Pie XI, qui est ce dur réquisitoire dont je vous ai parlé, qui démasquait les erreurs du racisme. Il ne s'est pas gêné pour dire, par la bouche de Pie XI, en écrivant, ce qu'il en pensait déjà, avant la guerre. Et c'est depuis, au secrétaire d'État, donc, Pacelli, que revient de signer les 60 mémoires diplomatiques envoyées par le Vatican sous Pie XI, envoyées à Berlin, en protestation contre les mesures de ce régime épouvantable qui porte atteinte aux droits des catholiques et aux droits humains les plus élémentaires partout où le régime nazi règne. Et ce n'est pas seulement l'Allemagne qui inquiète Pie XI et son collaborateur, le cardinal Pacelli, dans les années 30. Le Mexique sort lentement de l'épreuve. L'Espagne est déchirée par la guerre civile. Le communisme, maître de la Russie, au prix des souffrances qu'on connaît, n'est-ce pas, c'était effrayant, cherche à étendre son influence partout dans le monde. Alors l'encyclique Divini Redemptoris de 1937, sous Pie XI, est un avertissement lancé justement par ce pape Pie XI à ceux qui méconnaissent le danger, et Pacelli partage l'inquiétude du pape auquel il va succéder. C'est le spectre du communisme qui va le poursuivre d'ailleurs durant toute sa vie. Et cependant, Pie XI prépare son successeur en l'envoyant en qualité de légat étranger. On l'envoie à Buenos Aires, à Lourdes, aux États-Unis, à Lisieux pour inaugurer la basilique de Sainte-Thérèse en 1937, hein? Et enfin, à Budapest, pour le Congrès Eucharistique International. Il sera un pape magnifique. Quelqu'un dit ça. Qui, Monseigneur Tardini, en parlant de Pacelli? Il dit ça à Pie XI lui-même. Il sera un pape magnifique. Alors, le 2 mars 1939, c'est un grand jour. Je m'en souviens encore. Oh, j'avais 12 ans. C'était merveilleux. Cette annonce que Eugenio Pacelli devenait pape. C'était le jour de ses 73 ans, ça faisait les manchettes des journaux. On accordait une énorme importance à cette élection. Pie XII commence son pontificat à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui va se déclarer quelques mois plus tard. Ça le marque très profondément et très douloureusement. Comme secrétaire d'État auparavant, il a travaillé pour éviter ce conflit qui se sent approché, hein. Et la guerre déclarée, l'activité de Pie XII se poursuit sur deux plans. Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient en aide aux victimes des hostilités. Puis il veut éclairer aussi les esprits qui cherchent une solution valable à tous ces problèmes internationaux. Il veut chercher une entente entre les pays. Il cherche une véritable paix, quoi. Et c'est dans ce sens que vont surtout les grands discours du pape à Noël, prononcés durant les hostilités. En même temps, il y a une commission d'assistance et un office d'information du Vatican qui veulent être les témoins concrets de l'amour et de la compassion du pape. L'office d'information s'occupe de plus de 11 millions, j'ai bien dit 11 millions de cas, des individus perdus et recherchés, que l'on recherche en particulier par la Radio Vatican et par d'autres moyens. Et on renoue des familles et beaucoup de Juifs. On connaît la violente polémique déclenchée par la pièce de théâtre de Rolf Hochhuth, le vicaire, hein? pièce allemande dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, sur la question des Juifs pendant la guerre, pièce infâme. Et désormais, d'ailleurs, les archives du Vatican ont bien montré ce que le pape a voulu faire, et puis le choix angoissant auquel il a été acculé. Je vous en parlerai plusieurs fois dans l'émission, en parlant aussi de sainte Edith Stein. Je l'appelle déjà sainte, elle va être canonisée dimanche. De nombreux témoignages d'écrivains juifs, oui, des écrivains juifs, qui font autorité en la matière, montrent que Pie XII a réussi à sauver 860 000 juifs du massacre. J'ai bien dit 860 000 juifs du massacre. Ça a été endossé, ça, par le Congrès juif, qui aujourd'hui attaque Pie XII, c'est plus les mêmes personnes. Eh bien, le Congrès juif, au lendemain de la guerre, félicitait Pie XII. Ils ont même envoyé une délégation au Vatican. Einstein lui-même, qui était juif, Einstein a rendu hommage à Pie XII. Et c'est pour éviter les représailles qu'il n'a pas voulu aller plus loin que ce qu'il dit à Noël 1942, puis en juin 1943 à propos de ceux qui sont voués à la mort à cause de leur nationalité ou de leur race, comme il le dit, c'est ses propres mots. Je reviendrai là-dessus. La guerre terminée, Pie XII doit faire face à la marée montante du communisme en Europe et dans l'Extrême-Orient. Hein. Vous savez qu'on recevait, à la fin de la guerre, à Saint-Benoît-du-Lac, où j'étais novice, des délégués communistes russes avec beaucoup d'honneur et tout ça. C'était incroyable. Nous étions les amis des communistes, parce que nous terminions la guerre contre les nazis ensemble pour écraser Hitler. Mais c'était la guerre froide après la guerre, dont les catholiques, laïcs, prêtres, religieux, évêques et cardinaux ont fait les frais. Combien de morts! Pie XII a soutenu ses victimes de la persécution avec les moyens dont il disposait. Et de même, eh bien, il encourage ceux qui se dévouent à l'Europe unie. En même temps, il assure, à un rythme régulier, puis d'une façon absolument remarquable, l'enseignement doctrinal de l'Église par ses 40 encycliques. Les premières sont composées pendant la guerre. À cet enseignement extraordinaire, enseignement écrit, il ajoute le magistère de la parole. Surtout, à partir de 1950, il parle... Très souvent, il prend l'habitude de s'adresser non seulement aux catholiques venus en pèlerinage à Rome, mais aussi aux congressistes du monde entier, pour étudier les problèmes les plus divers, même les problèmes psychiatriques, psychologiques, etc. Il y a des livres là-dessus. J'en ai dans ma bibliothèque, c'est hallucinant tout ce qu'il y a. Il parle aux associations professionnelles de tout genre. On a répertorié plus de 300 discours importants, en plus de tous les autres. Et en 1954, une grave maladie l'oblige à interrompre ses interventions, mais il les reprend dès qu'il le peut. Et avec une puissance de travail tout à fait exceptionnelle, le pape Pie XII sait diriger les recherches, choisir les personnalités qui constituent son secrétariat privé, parmi lesquelles le fameux jésuite Robert Leiber, L-E-I-B-E-R, son plus proche collaborateur. Dans le dernier mois de sa vie, du 5 septembre au 5 octobre, 1958. Il prononce, je dis bien, dans un mois, 17 discours. Il est mourant. Il expédie 4 lettres papales. Il prépare 2 grands discours sur le sacerdoce et sur Benoît XIV. Un des derniers radiomessages qu'il prononce est donné à l'occasion du centenaire des apparitions de Lourdes. Et il meurt le 9 octobre 1958. Les journaux avaient de grandes bandes noires. La radio ne jouait que de la musique sérieuse. Tout le monde portait le deuil, quoi. C'était extraordinaire. Il est impossible de résumer l'œuvre gigantesque. Même du simple point de vue spirituel, c'est incroyable, toutes les encycliques, hein. Evangelii Praeconis, Fidei Donum, Aurietis Aqua, sur le Sacré-Cœur. Humani Generis, etc., etc. C'est incroyable. Mais on peut dire que traitant quelque sujet que ce soit, Pie XII est convaincu et pour des raisons très spirituelles, que tout doit être éclairé par la lumière du Christ Jésus. Le Christ est au centre de toutes ces réflexions, comme la personne humaine est au centre de tout ce qu'il préconise comme solution aux problèmes d'ordre juridique et social, la personne humaine. C'est ce que disait au fond Lysiane Gagnon quand elle parlait du suicide douloureux et malheureux de Pauline Julien. La personne humaine est au centre de tout ce qu'il préconise comme solution aux problèmes d'ordre juridique et social. Il est le premier pape à donner au monde une charte des droits de la personne. Le grand thème spirituel de Pie XII a été la vie de l'Église dans le sens d'une identification entre l'Église et le corps mystique du Christ. Une doctrine superbe, il a écrit une encyclique admirable. Et ceci l'a amené à préciser la théologie de l'Église. Ce désir de servir le Christ dans l'Église a dicté son enseignement spirituel à toutes les catégories de chrétiens. Il parlait autant aux prêtres, aux religieux qu'aux laïcs, puis aux femmes. Si vous voulez connaître le titre de cette encyclique de 1943, en pleine guerre sur le corps mystique du Christ, c'est Mystici Corporis. Ça couronne les orientations récentes à ce moment-là de la réflexion catholique sur le corps mystique du Christ. Il faut vous dire qu'en Allemagne, l'épiscopat allemand, durant la guerre, a multiplié les mises en garde contre le nazisme. Je pourrais vous donner la liste des évêques. Il y en a, il y en a, il y en a. De très courageux. Pourtant, dès son accession au pouvoir, Hitler propose le concordat très avantageux pour l'Église à Cardinal Pacelli. Il est signé en 1933, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et le régime hitlérien entend par là désarmer l'opposition des catholiques. C'est le jeu nazi hypocrite. Mais le concordat est de moins en moins appliqué, alors, et au fur et à mesure que le Reich, c'est-à-dire le gouvernement de l'Allemagne nazi, assure son emprise, le concordat a de moins en moins besoin des catholiques. Le Reich ne tient pas aux catholiques. Il mène une politique de plus en plus brutale. Et le pape Pie XI condamne, dans sa lettre encyclique dont je vous ai parlé, Mit Brennen der Sorge, qui a été écrite en partie par Pacelli, elle est lue dans les églises le jour des Rameaux de 1937. Les principes du national-socialisme, raciste et totalitaire sont condamnés et les critiques les catholiques, je voulais dire, ne peuvent guère s'opposer aux crimes du nazisme. Je vous en parlerai bientôt d'un prêtre qui s'est opposé, mais il a été tué. Ceux qui se sont opposés, ils ont été nombreux, se faisaient taire en un clin d'œil, et ça prenait pas de temps. Quelques heures et c'était fini. Aurions-nous, nous, le courage de nous opposer, disons, à ce massacre des bébés que l'on tue dans le ventre de leur mère? Je le fais, moi. Je n'hésite pas. C'est un carnage épouvantable. Des millions d'enfants que l'on tue. Mais qui se lève et qui parle? Nous n'en mourrons pas, je n'en meurs pas. Mais eux en mourraient quand ils se levaient. Le nazisme considérait bel et bien le christianisme comme un adversaire. Ça a été épouvantable. Et c'est avec horreur que l'on se souvient de ce matin d'août 1942, où les journaux, en large manchette, ont rapporté l'horrible nouvelle que la protestation officielle des évêques hollandais contre la persécution inhumaine des Juifs avait amené Hitler à faire quoi? Ils ont arrêté dans la nuit 40 000 Juifs en Hollande. Ils allaient faire gazer. Et parmi eux se trouvait cette célèbre philosophe et carmélite, Edith Stein. Dom Pie XII avait suivi la destinée avec beaucoup de sympathie. On a apporté les journaux du matin dans le cabinet de travail du pape, qui s'apprêtait à se rendre aux audiences. Il a lu le titre seulement, puis il est devenu blanc comme un linge. Et de retour des audiences, il était déjà 13 heures. C'était le moment de déjeuner. Avant de passer dans la salle à manger, le Saint-Père, le pape Pie XII, qui tenait à la main deux grandes feuilles couvertes d'une écriture serrée, est venu dans la cuisine où se trouvait la seule possibilité de faire brûler quelque chose au feu, puis il a dit « Je voudrais brûler ces feuilles. C'est ma protestation contre l'affreuse persécution des Juifs, et elle devait paraître ce soir dans l'Osservatore Romano. Mais si la lettre des évêques hollandais a coûté 40 000 vies humaines, eh bien ma protestation en coûterait certainement 200 000 et davantage. Je ne dois ni ne peux prendre cette responsabilité. Aussi vaut-il mieux se taire en public et faire en silence, comme auparavant, tout ce qui est possible de faire pour ces pauvres Juifs. » Et il est question aussi de sainte Edith Stein, Edith Stein qui sera canonisée dans moins de 48 heures, cette carmélite allemande, disciple de Husserl, le grand philosophe phénoménologiste, que j'ai étudié en prenant ma licence en philosophie, j'avoue que c'était pas facile. Mais elle comprenait tout ça et était beaucoup plus brillante que moi. Elle est devenue son assistante, elle est devenue une philosophe remarquable, une femme d'une vie intellectuelle ardente. Et cette juive, née dans une famille juive orthodoxe, petit à petit s'est converti, particulièrement en lisant la vie de Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila. Avez-vous déjà lu la vie de Sainte Thérèse d'Avila? Il faut. C'est à la source de la conversion de bien des gens. Oui, beaucoup de gens. Il faut lire ça. Je vous recommande en particulier celle écrite par Marcel Auclair, une femme. Admirable. Et alors, Edith Stein est entrée dans un carmel en Allemagne, mais quand les choses sont devenues trop difficiles, elle était à Cologne, elle est partie pour la Hollande. Et c'est en Hollande que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les évêques hollandais ont fait lire dans les églises une protestation officielle contre la persécution inhumaine des Juifs. Et les nazis ont arrêté dans la nuit 40 000 Juifs. Le pape Pie XII, voyant cela, a décidé de brûler deux pages qu'il allait publier dans l'Osservatore Romano, protestation contre l'affreuse persécution des Juifs. On s'est objecté à ce qu'il les brûle, parce qu'on a dit on pourrait en avoir besoin un jour. Et qu'est-ce qu'a dit Pie XII? Il a dit, moi aussi j'y ai pensé. Mais si, comme on le répète sans cesse, on entre ici de force un jour, et qu'on trouve ces feuilles, et ma protestation est faite sur un ton bien plus tranchant que la protestation hollandaise des évêques hollandais, qu'adviendra-t-il des catholiques et des juifs sous la coupe allemande? Oh non, il vaut mieux la détruire. Et le pape a attendu pour quitter la cuisine que les deux grandes feuilles aient complètement brûlé. C'est tragique de vivre dans des régimes pareils. Hein? Si le pape avait parlé d'une façon plus catégorique qu'il ne l'a fait, il n'aurait pas pu agir comme il a agi. Il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. On a fait arrêter 300 catholiques et davantage d'origine juive. C'était épouvantable. Épouvantable en Hollande. Parmi les récits des rares survivants, on sait comment se passèrent les derniers jours des condamnés à mort. Du Carmel d'Echt, on alla à une vitesse folle à Roermond, à la Kommandatur, de la localité, de là au camp de rassemblement d'Amersfoort, que les prisonniers atteignirent au milieu de la nuit. Si le comportement des SS avait été jusque-là poli, bien les Juifs ont été dorénavant poussés dans le dortoir à coups de crosse. Il est devenu clair à Amersfoort que l'arrestation des Juifs catholiques était une vengeance pour la lettre pastorale des évêques. Les Juifs protestants évangéliques et les demi-Juifs, ceux qui n'avaient qu'un parent juif, ont été relâchés. 1000 autres environ sont restés incarcérés avec les Juifs catholiques. Le 3 août a été une journée d'une longueur torturante. Au camp, la misère, surtout celle des femmes, était grande. Un témoin oculaire, le docteur Lenig, raconte qu'Edith Stein intervint courageusement en faveur des femmes. Un autre survivant, Peter Lawson, qui reconnut Edith Stein à son air de famille, écrit « Mais ce qui me reste encore fortement en mémoire, c'est l'insouciance et presque la gaieté avec laquelle elle-même et les autres sœurs et frères s'accommodaient de leur sort. On ne pouvait pas voir en eux et qu'ils avaient été surpris par la police seulement quelques heures plus tôt. Leur attitude se distinguait tellement de celle des autres occupants du camp que naturellement avaient tous très très peur. Écoutez bien ça, parmi les 300 catholiques juifs, là, se trouvaient environ 15 religieux et religieuses, et entre autres, les 5 frères et sœurs Loeb, L-O-Umlaut-B. Umlaut, c'est un tréma, hein? Donc L-O-Tréma-B. Ils étaient tous trappistes. 2 pères trappistes, 1 frère trappiste et 2 sœurs trappistines, juifs. Edith Stein a rencontré aussi ses amis qui avaient fui l'Allemagne, le docteur Ruth Kantorowicz de Venlo et Alice Reiss, qui travaillait chez les Sœurs du Bon Pasteur à Almelo. Et en pleine détresse, ses retrouvailles étaient ressenties avec reconnaissance, heureusement. Hein? Et le groupe des religieux et religieuses se réunissait pour le bréviaire et la prière du rosaire, puis s'assemblait autour d'Edith Stein. Et le beau témoignage qu'on fait sur Edith Stein, c'est car il était indéniable... C'est un témoin qui parle, car il était indéniable qu'il émanait de son comportement paisible une forte influence. On peut se demander, qu'est-ce que c'est que les évêques ont bien pu dire? Qu'est-ce qu'ils racontaient? C'est un texte tragique, difficile. Nous désirons, chers fidèles, c'est les évêques hollandais qui parlent, que vous preniez une conscience plus vive des détresses ainsi provoquées. Mais il est juste que les auteurs responsables de ces mesures de violence en pèsent eux aussi toutes les conséquences. Dans ce but, l'épiscopat catholique, de concert avec la plupart des ministres des communautés réformées de Hollande, s'est tourné vers la puissance occupante, lui adressant le télégramme suivant relatif au sort des Juifs. Les sous-signés, profondément émus des mesures d'exception prises contre les Juifs et tendant à les exclure de la vie commune de la cité, ont appris avec horreur la nouvelle des déportations massives de familles juives tout entières, hommes, femmes et enfants, vers des territoires de l'Est sous contrôle du Reich. Et les évêques continuent ils ont fait lire ça dans toutes les églises, hein, la douleur qui vient ainsi frapper des dizaines de milliers d'hommes, la certitude que de telles mesures vont à l'encontre du sens moral profond du peuple hollandais, et qui plus est, s'oppose au commandement de Dieu regardant la justice et la miséricorde, oblige les chefs des communautés chrétiennes réunies à vous adresser un appel pressant, afin de prévenir si possible l'exécution de semblables mesures. Pour les chrétiens d'origine juive, notre demande se fait plus instante encore, puisque les dispositions précitées visent à les exclure de la vie même de l'Église. Comme suite à ce télégramme, c'est toujours le texte des évêques, comme suite à ce télégramme, le commissaire adjoint Schmidt nous a concédé que les Juifs chrétiens dont l'appartenance à une communauté chrétienne était prouvée antérieure à janvier 1941 ne seraient pas inquiétés. Le message se terminait par un appel ardent à la prière et à une invincible confiance. Voici ce que les évêques disaient, les évêques hollandais. Nous supplions Dieu, chers fidèles, par l'intercession de la Mère de Miséricorde, qu'il daigne bientôt accorder au monde une juste paix, qu'il fortifie le peuple d'Israël si durement éprouvé, et le conduise au salut par le Christ Jésus. Qu'il se fasse le soutien de ceux qui, arrachés à leur affection familiale, sont condamnés à travailler au loin. qu'il les protège en leur âme et en leur corps, qu'il les garde de l'amertume et de la résignation passive, et qu'il les fortifie dans la foi, ainsi que ceux qu'ils ont dû quitter. Supplions le Seigneur de secourir toute détresse, celle des captifs et des otages, celle des opprimés innombrables qui sont à présent comme écrasés par l'épreuve et menacés par la mort. Puisse l'appel de ceux qui crient vers vous, Seigneur, frapper l'oreille de votre miséricorde. Donnez à Utrecht, l'an du Seigneur 1942, le 20 juillet. Cette lettre pastorale a fait sensation, évidemment, à travers toute la Hollande, mais le peuple, quand même, demeure inquiet des conséquences possibles d'une déclaration si ferme. On a peur, et c'est normal, mais nous, qu'est-ce qu'on a à avoir si peur de dire qu'on tue aussi nos enfants dans le sein de leur mère? On a peur. Peur de quoi, mon Dieu? Eux avaient raison d'avoir peur, hein? Au Carmel d'Echt, où était Edith Stein, ce message a été cueilli dans l'angoisse. Sœur Bénédicte, Edith Stein, c'est son nom de religion, Sœur Bénédicte de la Croix, vient d'apprendre la déportation de son frère Paul, avec sa belle-sœur et leur fille Eva, ainsi que celle de sa sœur Frieda, à Theresienstadt. Theresienstadt, ça veut dire Thérèse. C'est épouvantable. On craint le pire pour elle-même lorsque quelques lignes de Mgr Lemmens lui sont adressées, lui signalant l'amélioration apparente du statut des Juifs chrétiens. On croit alors qu'elle est sauvée une fois encore aussi dans l'action de grâce que sont chantées les premières vêpres de Saint-Pierre au Lien. Et cette fête est très chère à Sœur Bénédicte. Saint-Pierre au Lien, c'est la fête de Saint-Pierre enfermé dans une prison, la prison Mamertine à Jérusalem, d'où il s'est enfui grâce à des anges qui sont venus le libérer. On lit ça dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Alors, cette fête était très chère à Sœur Bénédicte. Elle avait écrit dans une lettre, « J'aime particulièrement ce jour de l'année liturgique, non seulement pour l'anniversaire qu'il évoque, mais parce que les liens y sont rompus par la main des anges. Combien de chaînes déjà sont ainsi tombées, et quelle joie lorsque les toutes dernières seront brisées. »
Les toutes dernières, c'est les liens de la vie qui nous rattachent sur cette terre. Et alors, nous serons dans la joie éternelle.
Et voilà que les liens de la terre allaient se rompre plus rapidement que la Carmélite ne le pensait, car ce fut sa dernière journée passée dans la paix du cloître. Et le 2 août, vers 5 heures de l'après-midi, Edith Stein et sa sœur Rose sont arrêtées et amenées par la Gestapo.
Qu'est-ce qui était devenu, quoi?
Ordre a été donné le matin même par le commissaire du Reich de se saisir de tous les religieux et religieuses non-ariens, donc juifs, dans les couvents de Hollande. On estime à 300 le nombre de religieux ainsi arrêtés, beaucoup plus que l'autre source que je vous ai lue tout à l'heure. J'avais même lu une fois qu'il y en avait près de 400 religieux juifs, catholiques. À Echt, au Carmel, on ne se doute encore de rien, et la cloche sonne comme d'habitude pour l'oraison, et c'est Sœur Bénédicte qui lit le point d'oraison. Les sœurs sont réunies au chœur en silence, lorsque le timbre extérieur avertit la mère prieure qu'elle est appelée au parloir. C'est la catastrophe. La sœur Tourière lui apprend que deux officiers allemands s'y trouvent, demandant les sœurs Stein. Sœur Bénédicte et sa sœur Rose qui loge là comme laïque. Alors elle croit, la supérieure, la prieure, qu'ils apportent enfin les permis de voyage qui sont demandés pour se réfugier en Suisse. Et puis, finalement, on lit la suite du récit dans les notes conservées par la mère prieure d'Echt. Les chaînes, on croit qu'elles seront brisées, mais non. On jettera Edith Stein en prison. La mère prieure d'Echt écrit, les deux sœurs Stein avaient reçu leur permis suisse pour aller vivre dans un carmel en Suisse. et croyant qu'il s'agissait de quelques formalités allemandes complémentaires, je pensais qu'elles pourraient régler l'affaire sans moi et les envoyer seules au parloir. Je fis sortir sœur Bénédicte du chœur, tandis que Rose la rejoignait au parloir du côté extérieur. Je restai moi-même près de la porte afin de guetter les nouvelles. Après avoir recommandé d'un mot l'entretien aux prières des sœurs, leur disant « Je crois que c'est la Gestapo ». Dès les premières phrases, je compris que l'affaire était autrement grave que je ne l'avais prévu, et je fus saisi de crainte. Un des offriers, des officiers SS, s'adressant à sœur Bénédicte, lui enjoignait de sortir de clôture dans les 5 minutes. Je l'entendis répondre. « Nous ne pouvons pas, nos règles de clôture sont fort strictes. » « Défaite tout cela !» cria le nazi, il voulait dire nos grilles, et sortit d'ici. Il faut vous dire que dans les Carmels, à l'époque, il y avait des grilles dans les cloîtres chez les Clarisses aussi. On a enlevé un peu trop de grilles, je trouve, moi, personnellement, mais enfin, peut-être je suis vieux jeu. Bon, alors... La sœur Bénédicte, qui est une Allemande, une juive allemande, courageuse, une sainte, elle dit que pour enlever les grilles, elle dit « Il faudra que vous m'y forciez ». Et là-dessus, le nazi ordonne « Appelez-moi la supérieure ». Comme j'avais tout entendu, écrit la suite de la prière, je me rendis au parloir en faisant un petit détour, tandis que sœur Bénédicte retournait au chœur. Elle s'agenouilla devant Saint-Sacrement, puis sortit en murmurant « Priez, mes sœurs ». Elle avait fait signe à la sœur Pia, qui la suivit en toute hâte, demandant avec angoisse, « Mais où allez-vous, sœur Bénédicte ?»« Je crois quitter la maison d'ici 5 minutes. »« Mais pour où ?» On ne me l'a pas dit. Alors seulement, la sœur comprit qu'il s'agissait de la Gestapo. Dans l'intervalle, je parlai à l'officier nazi, et il me dit, « Êtes-vous la supérieure ?» Je dis, « Oui. » »« Il faut que la sœur Stein ait quitté le monastère dans les 5 minutes. » Il lui répond, « Mais c'est impossible. Mettons 10 minutes. Nous n'avons pas de temps à perdre. » Mais nous faisons les démarches et les deux sœurs Stein sont attendues au Carmel en Suisse. Il ne leur manque plus que leur visa allemand. Tout ceci sera réglé plus tard et pour l'instant, la sœur Stein doit sortir d'ici. Elle peut se changer ou garder son habit, donner-lui une couverture, un gobelet, une cuillère et 3 jours de vivre. Et j'essayais de protester, mais le SS reprit, « Si vous osiez refuser de laisser sortir la sœur Stein, vous pouvez vous représenter les conséquences qui s'ensuivraient pour votre maison. » Je dis pour gagner du temps, « Laissez-nous au moins une demi-heure. » Et devant son refus, j'ajoutai, « Que Dieu soit témoin que vous nous faites violence. » Elle a du caractère, cette prieure carmélite. Et elle ajoute, « Puis je montai précipitamment rejoindre sœur Bénédicte dans sa cellule. Plusieurs sœurs se trouvaient déjà près d'elle, l'aidant à impacter ses effets. Elle me dit aussitôt, « Je vous en prie, écrivez tout de suite au consul de Suisse à La Haye, à propos de nos permis de voyage. » La partie ne lui semblait pas encore perdue. Elle conservait l'espoir de pouvoir gagner le Carmel du Paquier en Suisse. Puis elle ne dit presque plus rien, demeurant tout absorbée en esprit. Les sœurs couraient de ci, de là, voulant tout prix lui préparer quelque chose à manger, mais elle ne toucha pas aux aliments. Au dehors, sa sœur Rose attendait, agenouillée près de la porte de clôture, afin de recevoir ma bénédiction. Lorsque les deux sœurs furent sorties du monastère, on entendit encore la voix de sœur Bénédicte expliquant officiellement leur projet de voyage et de départ en Suisse, et ce fut tout. Les officiers nazis avaient attendu en silence. Nous aussi, nous avions essayé d'entourer cet arrachement douloureux de tout le silence possible. La rue devant le couvent, il faut bien le dire, était pleine de monde, et Rose Stein était connue et aimée dans le quartier, parce qu'elle, elle sortait du monastère, elle se promenait un peu. Et des protestations se sont élevées aussitôt, réprimées évidemment. Au détour de la rue, une voiture de la Gestapo attend. Il s'y trouve déjà plusieurs victimes. Les deux sœurs Stein montent dans l'automobile qui part immédiatement pour une destination demeurée inconnue aux témoins du drame. Et le même jour, dans la soirée, le commissaire adjoint Schmidt fait connaître en un discours officiel qu'il s'agissait là d'une mesure de représailles en réponse à la protestation des évêques de Hollande. Elle est donc martyre juive de sa foi catholique. Elle est martyre catholique. Il soulignait, dans son discours, que les communautés protestantes s'étaient pour la plupart abstenues de citer le passage de la lettre pastorale relatif aux négociations avec les autorités allemandes, dites secrètes. Les protestants ont été plus prudents. Les catholiques et les protestants avaient été avertis par le Vatican de se taire, de faire attention car il y aurait des représailles terribles, mais ils n'ont pas voulu et les évêques catholiques ont cru bon de protester officiellement. Voilà ce qui leur arrive. Les évêques n'en ont pas souffert. Ils ont continué à manger leurs 3 repas par jour et à dormir dans leur résidence, mais ce sont les Juifs catholiques qui ont payé. C'est pas facile prendre la parole quand il y a ainsi une dictature abominable. Les ecclésiastiques catholiques ont refusé de respecter le secret des négociations entreprises, et de ce fait, les autorités allemandes se voient contraintes à poursuivre les catholiques juifs comme leurs pires ennemis, c'est le texte officiel, et de s'assurer le plus rapidement possible de leur déportation vers l'Est. Monseigneur de Jong fit, le 23 août, une mise au point énergique au nom de l'épiscopat de Hollande. Il déclara qu'un échange de télégrammes en clair par la poste ordinaire ne présentait aucun caractère confidentiel et que l'allusion à de pseudo-négociations interrompues était un pur mensonge. Alors, il y avait aussi le point de vue, donc, des évêques. Ce sont donc les derniers jours. Les sœurs du petit Carmel d'Ecte sont en proie à l'angoisse de l'attente lorsque le 5 août, 2 messages télégraphiques identiques en leurs termes parviennent à leur couvent et à celui des Ursulines de Venlo. Ces télégrammes proviennent du village de Westerbork, situé au nord de la Hollande, près de la station ferroviaire de Holhallen. Et ils émanent de la municipalité. Alors, les choses s'accentuent. On déménage les sœurs Stein jusqu'au camp de concentration. Et on retrouve dans les documents, dans le journal officiel de Hollande, qui publie la liste des victimes mortes en déportation, les indications suivantes. En date du 16 février 1950, le numéro 44074, Edith Teresa Edwige Stein, née le 12 octobre 1891 à Breslau, venant d'Echt, décédée le 9 août 1943. Le journal du 4 mai 1950 complétait ainsi ce premier renseignement. Numéro 44075, le numéro suivant de l'autre. Rose-Marie Agnès Adélaïde Stein, née le 13 décembre 1883. Donc, de 7 ans plus âgée ou 8 ans plus âgée que Edith, née à Lublinitz en Allemagne, venant d'Echt, elle aussi, décédée le 9 août 1942, le même jour. Nous pouvons prier Saint Edith Stein et lui demander de nous venir en secours pour que nous nous proclamions vraiment défenseurs de la vie. Je vous ai lu ce texte à la défense de la vie de Lisiane Gagnon au début. Faisons plus. Défendons la vie du début de la conception jusqu'à la mort. Et soyons prudents dans notre défense de l'euthanasie, contre l'euthanasie, afin de vraiment refuser tout acharnement thérapeutique et proposer plutôt l'allègement des douleurs, les soins palliatifs et pour ce qui est de l'avortement, que l'on comprenne qu'il faut venir en aide aux femmes et qu'on demande aux hommes de respecter les femmes et qu'on demande aux gens dans la société de respecter la vie. On ne tue personne de grâce. Regardez ce que les Allemands ont fait. Ils ont tué cette femme admirable et sa sœur, Edith et Rose Stein.